Le journal, Antoine Marette.
Bonjour. L'idée du reconfinement fait son chemin en France. La France qui doute de l'efficacité du couvre-feu. Nous ferons le point sur l'épidémie du Covid-19 et nous décrypterons le débat politique autour des mesures gouvernementales. La Turquie prend la tête du Macron bashing dans le monde musulman. Recep Tayyip Erdogan s'interroge sur la santé mentale du chef de l'État français qui justifie la publication des caricatures de Mahomet. Nous en parlerons avec notre invité Didier Billion. Il est le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. La protestation ne faiblit pas au Bélarus. Au lendemain d'une grande manifestation, la chef de l'opposition annonce le début d'une grève générale. Elle exige le départ du président Alexandre Loukachenko, frauduleusement réélu en août dernier. Et puis en Chine, plus de 300 membres du comité central du Parti communiste sont réunis depuis ce matin. Ils vont établir la nouvelle feuille de route de la Chine pour les 5 prochaines années, dans un contexte mondial tendu par la pandémie et l'affrontement idéologique entre l'Empire du Milieu et l'Occident. Faut-il, oui ou non, reconfiner la France ? La question est posée ce midi. Des doutes émergent sur l'efficacité du couvre-feu en vigueur sur une bonne partie du territoire. Les Français s'adaptent à ces nouvelles contraintes. Ils dînent plus tôt et donc le problème n'est que déplacé. Reconfiner pour remettre les pendules à l'heure, c'est devenu indispensable, selon Éric Combes. Pour le chef du service infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, on n'a pas réussi à réaliser le fameux cocktail testé, tracé, isolé. De son côté, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy estime que la situation face au Covid est difficile, voire critique. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
La deuxième vague est bien là. Et elle est brutale.
Oui, c'est le mot exact employé par Jean-François Delfraissy sur RTL ce matin. Nous sommes surpris par la brutalité de ce qui se passe, a dit le président du conseil scientifique qui avait pourtant annoncé dès l'été l'arrivée de cette deuxième vague. Et même si les Français ne veulent pas la voir, car c'est très difficile, a admis le professeur Delfraissy, eh bien nous sommes effectivement en pleine tempête. Les chiffres le montrent clairement, Antoine. Le nombre d'hospitalisations, par exemple, a progressé de 11% sur 3 jours. On est donc autour de 1300-1500 nouvelles hospitalisations quotidiennes. Dans les services de réanimation, 191 patients ont été admis hier contre 233 la veille et sur 3 jours, la progression est de 9%. Pour relativiser quand même au pic de l'épidémie, on était autour de 3 fois plus de personnes en réa, soit 771 personnes admises rien que le 1er avril dernier. Mais ce qui inquiète beaucoup les spécialistes, c'est que les contaminations explosent. Plus 52 000 tests positifs en 24 heures et ce chiffre est sous-estimé. Il ne s'agit que des cas avérés. On est probablement, disent les experts du conseil scientifique, autour de 100 000 nouvelles contaminations chaque jour à l'échelle du pays. La grande question est de savoir combien de temps les hôpitaux vont tenir. En Ile-de-France, par exemple, 67% des 1200 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. L'ARS précise que 500 lits supplémentaires sont disponibles. L'agence a activé le palier 2 du dispositif et pourra encore monter en puissance, mais pas tant que ça, car contrairement à la première vague, on ne peut plus déprogrammer autant qu'au printemps dernier pour libérer des lits. Il y a beaucoup d'autres malades qui n'ont pas attrapé le coronavirus, dont les opérations ont été reportées et qu'il faut absolument soigner maintenant.
Merci à vous Tara Schlegel. Et cette idée d'un possible reconfinement n'est plus tabou, elle fait son chemin dans la classe politique avec des appréciations diverses. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
Les députés ont vivement débattu le week-end dernier autour de la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 16 février prochain et l'idée d'un reconfinement ne fait qu'envenimer les discussions.
Ce que réclament les parlementaires et les élus locaux, c'est d'être associés à la prise de décision, surtout s'il doit y avoir un reconfinement. Mais ce reconfinement ne pourra pas être total comme au mois de mars. Prévient Renaud Muselier, le président des régions de France, qui souhaite que l'on préserve avant tout l'économie, la culture et l'enseignement. Alors, s'il doit y avoir un reconfinement, il devra être adapté aux situations locales et surtout décidé dans la concertation, dit Jean Rottner, le président de la région Grand Est.
On a un ou deux trains de retard, c'est clair, et il nous faut aujourd'hui prendre les bonnes décisions. Faisons-le dans la concertation, dans l'écoute, dans la bonne compréhension des phénomènes et dans la manière de faire. Essayons de construire ensemble une démarche qui soit une démarche cohérente, une démarche efficace. Il faut que nous sortions de cette deuxième vague en sachant là aussi qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir.
Jean Rottner sur France Info. Alors si l'on en est arrivé là aujourd'hui, c'est par un manque d'anticipation du gouvernement sur cette deuxième vague. constate Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise. Il était ce matin sur France Inter.
L'absolution permanente pour le passé, ça commence à bien faire. Parce que ces gens n'ont jamais rien planifié ni organisé. Gouverner, c'est un art de provoquer, organiser le consentement à l'autorité. Les Français sont un peuple éduqué, d'assez haut niveau, et on ne peut que le convaincre. Chaque fois qu'on essaye de le contraindre, ça tourne mal. Et vous verrez que cette fois-ci encore, vous allez avoir des effets de rébellion qu'on n'avait jamais vus et qui paraîtront à certains moments insupportables, mais qui seront le résultat de cette mauvaise manière de mener les affaires.
Alors reconnaissons que pour l'instant, les semaines de confinement du printemps, comme ces premiers jours de couvre-feu, sont globalement respectées. Alors ce reconfinement sera-t-il total ou territorialisé? Une chose est sûre, la semaine dernière, le Premier ministre nous a préparé à un durcissement des mesures en fonction de l'évolution des données épidémiologiques. Il y aura, expliqué Jean Castex, des mesures beaucoup plus dures si l'épidémie n'est pas jugulée. Tout porte à croire que ce moment est arrivé.
Merci à vous Pierre Neveu. Et puis parmi les conséquences de la crise sanitaire, l'application de la délicate réforme de l'assurance chômage va être à nouveau reportée de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 2021. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, à l'issue d'une conférence sociale à Matignon. La réforme de l'assurance chômage qui était suspendue jusqu'au 1er janvier sera suspendue 3 mois de plus. C'est ce qu'a indiqué le responsable patronal à l'issue de la rencontre de près de 3 heures. Plusieurs pays du Moyen-Orient appellent au boycott des produits français après la publication de caricatures de Mahomet. Des médias français les ont à nouveau diffusées en réaction à l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est une bonne partie du monde musulman qui réagit. Le Maroc juge ces caricatures offensantes. Il condamne les actes de sauvagerie au nom de l'islam, mais considère ces nouvelles publications comme une provocation. À Casablanca, la correspondance de Sédi Khalfi.
En Algérie, Tunisie et Maroc, certains journaux ou sites d'information soutiennent indirectement cette campagne en parlant de propos, je cite, anti-islam du président Macron lors de l'hommage à Samuel Paty. Dans les cafés, on regarde Al Jazeera, la chaîne d'information qatari qui parle en boucle de ce boycott, et les réseaux sociaux sont en émoi. Au Maroc, le premier ministre islamiste El Othmani a parlé sur Twitter de provocation injurieuse des sacralités musulmanes que la liberté d'expression ne saurait justifier. Mais concrètement, pour le moment, le boycott ne semble pas vraiment suivi d'effet. Les stations Total, les magasins Carrefour, les produits Yves Rocher sont bien implantés au Maghreb, mais n'ont pas été impactés à cette heure. Plus visible, car de grande consommation, les produits du fromager Bel ou encore les produits Danone sont plus exposés. Le PDG de Danone se rappelle encore du mouvement de boycott que sa filiale centrale laitière a subi il y a 2 ans. Les Marocains exigeaient à l'époque une baisse de 5 centimes du prix du lait. Le PDG de Danone avait alors rappelé que les emplois détruits étaient des emplois locaux. On notera enfin que les marques et produits turcs de mieux en mieux implantés au Maghreb espèrent tirer profit de ce boycott et jouer les produits de substitution.
Invité de ce journal, Didier Billion. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Et justement, la tension est montée d'un cran entre la France et la Turquie. Paris vient de rappeler son ambassadeur en Turquie à la suite des propos de Recep Tayyip Erdogan sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Ce sont des propos, on peut le dire, insultants. Et quel est le but du président turc en disant ça?
Tout d'abord, je me permets de rappeler que ces paroles prononcées par le président turc et qui sont évidemment totalement condamnables viennent dans un contexte de dégradation accentuée des relations entre les deux pays sur lequel les désaccords se manifestent sur quasiment tous les dossiers, en tout cas de politique extérieure et régionale. Alors aujourd'hui, M. Erdogan, en tout cas hier, a fait monter la pression d'un cran en ayant des invectives et des propos assez injurieux à l'égard du président français. Je pense qu'il a deux objectifs. La première, c'est d'apparaître comme celui qui ne baisse pas la tête, ne baisse pas les yeux devant les puissances occidentales, car c'est récurrent dans ses discours de considérer que les puissances occidentales en volent au monde musulman, en volent à la Turquie. Parfois même, il n'hésite pas à parler de croisades, de nouvelles croisades, etc. Et donc, il veut apparaître comme celui qui résiste à ces supposées, ces prétendues agressions des Occidentaux à l'égard du monde musulman.
Le chef du monde musulman, en quelque sorte.
Oui, mais ça, je crois que sur ce point, M. Erdogan fait un bien mauvais calcul, car il peut éventuellement séduire quelques militants, quelques pans radicalisés des sociétés concernées, mais pour autant, comprenons bien que dans les mondes arabes, il n'y a pas une confiance absolue en la Turquie, parce que l'Empire ottoman n'a pas, par exemple, laissé que de bons souvenirs. Donc je crois qu'il faut mesure garder, et que de toute façon, par ailleurs, la Turquie n'a pas une politique expansionniste au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un projet, un agenda de conquête de territoire ou de modification des frontières. Donc sachons mesure garder. Le deuxième objectif de M. Erdogan, mais il est corrélatif, c'est ce qui concerne la France. J'ai évoqué la dégradation des relations bilatérales et le projet de loi sur le séparatisme qui est voulu par l'Élysée, par M. Macron, a été très mal perçu en Turquie, non seulement parce que M. Erdogan considère que c'est de faire preuve d'islamophobie, mais que par ailleurs, il y a quelques intérêts turcs très pressants en la matière, puisque nous savons que des imams turcs sont envoyés en France sans aucun contrôle de la part des autorités françaises, et que cette loi, si elle aboutit, eh bien, mettrait fin à cette pratique, que nous avons aussi des enseignants turcs qui sont envoyés en France pour apprendre la langue turque à des jeunes gens et des jeunes filles d'origine turque, et ça aussi sans aucun contrôle de la part des autorités administratives françaises. Donc on voit bien que là, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a le fond, c'est-à-dire cette volonté d'apparaître comme un défenseur intransigeant de l'islam et des valeurs porté par cette religion, et par ailleurs des intérêts qui sont plus directement liés aux relations bilatérales franco-turques et avec la perspective de mettre le frein ou la fin à un certain nombre de pratiques qui sont utilisées par la Turquie depuis bien longtemps quant à l'envoi d'imams ou d'enseignants sans contrôle en France.
Cette stratégie de tension, elle peut aller jusqu'où ?
Et je pense qu'il serait de bon ton des deux côtés, bien qu'évidemment je ne fasse pas un parallèle ou une fausse symétrie entre M. Erdogan et M. Macron, mais je pense qu'il faut arrêter, il faut stopper cette montée de l'escalade. Je ne suis pas certain pour ma part que le rappel de notre ambassadeur de France à Paris, il a dû arriver hier sur le sol français, soit la bonne méthode, parce que en rappelant notre ambassadeur, nous nous privons du principal vecteur de communication que nous devons maintenir avec les autorités turques. Donc il s'agit maintenant...
Pour consultation, hein.
Pour consultation, tout à fait. Mais vous savez bien que c'est pas une situation totalement exceptionnelle. C'est rare, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais qu'une fois l'ambassadeur de français de tel ou tel pays est rappelé en France pour, selon la formule consacrée, pour consultation, il faut ensuite trouver le bon moment pour lui permettre de repartir vers le pays dans lequel il sert les intérêts de la République. Donc on a une ambiguïté, rien ne dit que M. Hervé Magro, notre ambassadeur, pourra repartir très rapidement en Turquie, parce que évidemment il faut qu'il puisse repartir la tête haute.
Alors la bonne réponse, ce serait quoi?
La bonne réponse, c'est d'être exigeant à l'égard de la Turquie, de ne pas laisser passer ce type de déclaration, mais pour autant maintenir des canaux de communication, parce que je pense qu'au-delà des foucades de M. Erdogan, qui sont insupportables, la Turquie reste un grand pays dans la région, indispensable à la stabilité régionale, et je crois qu'on a plus d'intérêt que d'inconvénient à maintenir des relations normalisées avec elle.
Ne pas laisser passer, concrètement, ça se manifeste comment ?
Oh, vous savez, il y a beaucoup de moyens de pression que peuvent utiliser soit les responsables politiques. Nous avons un certain nombre de dossiers sur lesquels nous travaillons en commun. Nous pouvons faire pression sur ceux-ci. Il y a des relations économiques, là aussi. Alors, je ne sais pas si les industriels et les entrepreneurs français seraient très favorables à des décisions qui viseraient à réduire le niveau d'investissement économique. Mais tout cela peut s'étudier, se discuter fermement. Mais calmement, ce n'est pas la peine d'en rajouter dans l'escalade.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous Didier Billon d'avoir accepté cette interview dans le journal de Midi et demi de France Culture. La protestation ne faiblit pas au Bélarus. Au lendemain d'une grande manifestation, la chef de l'opposition annonce le début d'une grève générale. Svetlana Tikhanovskaya exige le départ du président Loukachenko, frauduleusement réélu en août dernier. Bonjour Jean-Didier Revoin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Svetlana Tikhanovskaya enjoint ses compatriotes à montrer que personne ne travaillera pour le régime.
Eh bien oui, hein, dès ce matin, dans certaines usines d'État, le mouvement de grève a été suivi. Alors sur les réseaux sociaux, des images montrent que des ouvriers ont refusé de prendre leur car. On les voit en effet agglutinés à l'entrée des bâtiments ou à l'intérieur, en train de défiler en file indienne entre différentes machines, mais se refusant à travailler. Alors par ailleurs, des centaines d'entreprises en Biélorussie ont fait de ce 26 octobre un jour de congé, ou alors elles ont fermé pour des raisons techniques, par exemple pour procéder à des inventaires. Une façon d'exprimer leur mécontentement par rapport à ce qui se passe dans le pays. D'autres images ont montré des arrestations de manifestants pacifiques dans les rues de Minsk, alors que les étudiants manifestent pour exprimer leur soutien aux travailleurs. La question qui se pose désormais est celle de l'ampleur de la grève, car pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit suivie massivement. Ce sera aussi l'occasion de mesurer le poids de l'opposition démocratique biélorusse, récompensée la semaine dernière par le prix Sakharov du Parlement européen.
Et à Moscou, on surveille de près ces manifestations.
Alors officiellement, le Kremlin dit avoir refusé de donner des conseils au président Loukachenko. Il estime que cela constituerait une tentative d'ingérence. Mais ce matin, le Kremlin a reconnu que Moscou ne pouvait ignorer cette grève générale, soulignant l'importance d'un fonctionnement fiable des entreprises biélorusses. La Russie est en effet le principal importateur de la production industrielle biélorusse et la prolongation du mouvement ne sera pas sans répercussion pour Moscou.
Merci à vous Jean-Didier Revoin. Manifestation également en Thaïlande aujourd'hui devant l'ambassade d'Allemagne. C'est en fait un nouveau geste de défi à l'encontre du roi Maha Vajiralongkorn, lui qui séjourne fréquemment dans ce pays d'Europe. La contestation qui dure depuis 3 mois vise également le Premier ministre au pouvoir depuis le coup d'État de 2014. Les manifestants réclament plus de démocratie, Valérie Krova.
Ils avaient lancé un ultimatum au Premier ministre, lui donnant 3 jours pour quitter le pouvoir. Samedi soir, le général Prayut a été clair « Je ne démissionnerai pas », a-t-il dit. Les manifestants pro-démocratie ont donc de nouveau manifesté hier dans la capitale Bangkok et comptent bien remettre cela aujourd'hui. Ils ont prévu de se rendre vers l'ambassade d'Allemagne, l'Allemagne où le roi va régulièrement pour des séjours privés, en particulier en Bavière. C'est donc le monarque et sa personnalité controversée qui sont visés. Les militants pro-démocratie exigent, entre autres, une réforme de la monarchie. Parallèlement, le Parlement thaïlandais se réunit aujourd'hui et pour 2 jours en session extraordinaire. Mais les députés n'évoqueront pas les revendications des manifestants qui demandent aussi une révision de la Constitution. Non, les parlementaires débattront des rassemblements illégaux et des comportements inappropriés qui ont porté atteinte à la monarchie selon un communiqué publié par le Parlement. De quoi attiser encore plus les tensions entre le pouvoir et les contestataires déterminés à obtenir le départ du chef du gouvernement.
Le cessez-le-feu humanitaire conclu entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabakh vole en éclats. Il a été signé hier, mais il n'est jamais vraiment entré en vigueur et les combats continuent. Bonjour Yoram Melloul.
Bonjour.
De chaque côté de la ligne de front, les deux adversaires se renvoient la responsabilité de la reprise des affrontements.
Ils ne s'accordent que sur un seul point, il y a bien une violation grossière du cessez-le-feu. Pour le reste, la situation pourrait se résumer en une formule simple, c'est l'autre qui a commencé. Personne ne prend la responsabilité de cet échec. Azerbaïdjan et Arménie assurent avoir respecté la trêve. Côté Bakou, le ministère des Affaires étrangères reproche aux forces arméniennes d'avoir bombardé Terter, une petite ville azerbaïdjanaise située en dehors de la zone disputée. Les autorités séparatistes du Haut-Karabakh, elles, tiennent le même discours et font les mêmes reproches à leurs adversaires. Elles dénoncent des tirs de l'artillerie azerbaïdjanaise en plusieurs zones du front. L'AFP rapporte aussi une explosion entendue aux alentours de Stepanakert, la plus grande ville du Haut-Karabakh, et ça à 10 minutes avant le début du cessez-le-feu. Arménie et Azerbaïdjan ne semblent pas prêts à arrêter les combats malgré les appels de la communauté internationale. Discutée à Washington, cette trêve était la 3e depuis le début des affrontements il y a près d'un mois. La première avait été négociée à Moscou, la 2e à Paris. Cette fois, les Américains s'y sont frottés, visiblement sans plus de succès.
Merci à vous Yoram Melloul. Et on va maintenant en Chine où plus de 300 membres du comité central du Parti communiste sont réunis depuis ce matin et ce jusqu'au 29 octobre sous la direction de Xi Jinping à Pékin. Ils vont établir la nouvelle feuille de route du pays pour les 5 prochaines années dans un contexte mondial tendu par la pandémie et l'affrontement idéologique entre l'empire du milieu et l'Occident. Et ce 14e plan quinquennal a une priorité, rendre la Chine autonome et autosuffisante sur le plan technologique et relancer la croissance économique qui s'est effondrée. Bonjour Dominique André.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre correspondante à Pékin. Au programme de ce comité, l'innovation dans le numérique, la 5G, les hautes technologies et le changement climatique.
Oui, et ce plénum du comité central du PC est vraiment un moment politique clé, car c'est tout le plan de développement économique, effectivement, qui va être présenté dans un contexte incertain du fait de la pandémie, des tensions sino-américaines, d'une relation sino-européenne qui s'est durcie et d'une situation intérieure chinoise fragile. Rappelons que cette année, pour la première fois, la Chine n'a pas publié de prévision de croissance économique. Alors, durant les 5 ans à venir, Xi Jinping espère relancer la machine chinoise en renforçant d'abord son immense marché domestique. Les Chinois sont invités d'ailleurs à rester en Chine tant que la situation sanitaire mondiale ne sera pas bonne. Ils vont donc consommer à l'intérieur des frontières. Et puis l'autre grande priorité de ce plénum, c'est de viser l'autosuffisance et l'autonomie sur le plan technologique, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'étranger. Shenzhen, qui est la Silicon Valley chinoise dans le sud du pays, va devenir une nouvelle zone pilote pour les hautes technologies, pour le numérique, la 5G. Alors ce double moteur de croissance peut-il suffire dans les années qui viennent? Des experts pensent que le marché domestique ne sera pas suffisant et que la Chine aura besoin aussi d'exporter et aura besoin des investissements étrangers. Comme le disait Mao Tse-tung, la Chine doit marcher sur ses deux jambes. Ce plan sera rendu public au printemps.
Merci à vous, Dominique André. Jean-Yves Le Drian estime qu'un dialogue est impossible avec les groupes djihadistes qui sévissent au Mali et plus largement dans la région du Sahel. Le chef de la diplomatie française l'a affirmé ce matin lors de la première visite à Bamako d'un haut responsable français depuis le coup d'État du 18 août. Il y a les accords de paix et puis il y a les groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. Les choses sont simples. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse, interrogé sur les possibilités d'un dialogue avec les groupes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Retour à l'actualité française avec le procès des attentats de janvier 2015. Ali Riza Pola est celui des 11 accusés présents pour qui pèsent les plus lourdes charges, complicité de meurtre et association de malfaiteurs terroristes. Ce matin, le président a rappelé le nom de chacune des victimes, des frères Kouachi et Hamidi Koulibaly. C'est aussi le dernier à être interrogé. L'interrogatoire d'Ali Riza Pola, 35 ans, est prévu sur 2 jours. Et il a débuté ce matin, Florence Turme.
Ali Riza Pola encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il le sait, il le dit, il le crie, il hurle dans le micro, debout dans son box, poing serré. Je veux pas aller en prison, je veux pas aller en tôle pour ça, pas pour cette dinguerie, ce truc de fou. Cheveux ras, carrure massive, chemise et masque blanc depuis le début du procès, il sort régulièrement de ses gonds, insulte les témoins ou d'autres accusés, affirme être victime d'un complot lié à une sombre histoire de vengeance entre bandes de cités. Aujourd'hui encore, au milieu d'un incessant flot de paroles, véhémentes et souvent décousues, il reconnaît seulement avoir participé à l'escroquerie au crédit voiture montée par Hamidi Koulibaly. Je l'ai connu en 2007, c'est un bandit, je suis un bandit, on a bien accroché. L'accusé se vante d'être un trafiquant d'héroïne, un as de l'escroquerie, avec un seul but dans la vie, l'argent. L'argent, l'argent, répète-t-il encore en boucle, mais pas en faisant n'importe quoi. Je me suis jamais levé un matin pour tuer qui que ce soit. Il interrompt le président du tribunal. Je regrette un truc de fou d'avoir arrêté de vendre de la drogue. Vous voulez un coupable, mais ça va pas être moi. Sa voix se perche. Devant lui, son avocat tente impuissante de le calmer. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours fait des magouilles, mais ça, ça me dépasse. Mais pourquoi ces tentatives de départ juste après les attentats parvient à glisser le magistrat, le Liban, Damas, la Thaïlande? Même réponse, je voulais pas aller en tôle. Il transpire, le visage de plus en plus rouge, et je le jure devant Dieu, je n'ai pas de sang sur les mains.
Merci à vous Florence Thur, merci également à Georges Thau à la technique. Cet après-midi, le temps sera variable sur une bonne partie du pays. Seuls l'Île-de-France et le Sud profiteront d'un ciel dégagé et stable. Les températures seront médiocres et homogènes. 10 degrés à Belfort, 13 à Paris, 17 à Nice, ce sera le maximum. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Aurélie Kiefer.